Bienvenue à toutes et tous sur Startup Job Story, le podcast qui décrypte les métiers en startup. Proposé par la Fresh Tech in the Alps, le collectif des startups alpines, il invite à découvrir les métiers de demain à travers le regard de celles et ceux qui les exercent aujourd'hui. C'est Mathilde qui se charge d'interviewer notre invité. Allez, c'est parti!
Bonjour, je suis Mathilde Gandon et je travaille pour la Fresh Tech in the Alps Grenoble. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alix Gauthier. Bonjour Alix.
Bonjour Mathilde.
Alors Alix, est-ce que tu peux nous donner le nom du métier que tu exerces ?
Alors je suis Chief Operating Officer, un nom barbare, communément on dit COO, donc c'est le chef opérationnel de l'entreprise on va dire.
COO c'est vraiment un nom qu'on entend beaucoup dans le milieu startup, on va y revenir. Avant toute chose, pour briser la glace, nous t'avons demandé de choisir un objet. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et ce que ça représente pour toi ?
Alors oui, j'ai choisi un piano, ça correspond à mon envie du moment de me remettre à une pratique artistique après l'avoir abandonné pour faire du sport pendant longtemps. Et puis surtout le piano pour moi c'est vraiment un instrument qui permet de créer et c'est un bon symbole, une bonne métaphore je pense de mon parcours professionnel aussi.
Super. Pour rentrer dans le sujet du métier, je voudrais te demander quel métier est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ? Est-ce que tu t'en souviens ?
Oui, je m'en souviens bien. Je voulais être journaliste sportive.
Ah, c'est précis.
C'était très précis parce qu'on était du coup passionnés de sport dans ma famille. Et puis j'avais envie d'être journaliste pour témoigner, pour apporter quelque chose aux gens. C'était ça qui était très important pour moi. Et en fait, avec mon évolution professionnelle, je me suis aperçue que plus qu'apporter une connaissance, je voulais construire quelque chose pour le monde. Et c'est pour ça que j'ai évolué vers l'entrepreneuriat progressivement.
Oui, on sent le fil rouge dans ce que tu nous dis, l'envie de créer avec le piano, l'envie d'apporter quelque chose avec le journalisme. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, donc tu t'es orientée vers l'entrepreneuriat, mais est-ce que tu peux revenir vers ton parcours d'études ? Qu'est-ce que tu as fait ?
Oui, alors comme du coup je voulais être journaliste à la base, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des études qui soient bonnes pour la culture générale, qui me permettent de préparer des écoles de journalisme. Du coup, je suis rentrée à Sciences Po Paris, donc pour avoir un cursus généraliste, et parce que normalement c'est une très bonne antichambre pour les écoles de journalisme. Et quand je suis arrivée à Sciences Po, j'ai découvert le monde de l'entreprise que je connaissais peut-être pas très bien, et je me suis dit que j'avais envie de creuser cet aspect-là. Donc à la fin de Sciences Po, j'ai fait en complément une année dans un master d'HEC qui s'appelle HEC Entrepreneur, qui à l'époque n'était pas très très connu. En tout cas, c'était un peu la petite porte de l'entrepreneuriat, en tout cas qui permettait de comprendre la petite entreprise. Donc j'ai complété ce cursus à Sciences Po avec ce master HEC Entrepreneur. Et à la sortie d'HEC Entrepreneur, je ne me sentais pas de créer mon entreprise tout de suite. Je savais que c'était un désir que j'aurais par la suite. Je me suis dit que je ne connaissais encore pas assez l'entreprise pour être apte à en créer une moi-même. Et du coup, j'ai plutôt été à l'inverse vers des grands groupes. Donc j'ai fait un parcours de 5 ans en grande entreprise, en l'occurrence chez Pernod Ricard, plutôt en communication et marketing parce que c'était la spécialité que j'avais prise dans mes études. Et donc du coup, sur des postes voilà, assez généraliste. Et au bout de 5 ans de grand groupe, j'ai ressenti le fait que j'étais prête à créer mon entreprise et donc c'est là que j'ai lancé en 2015 ma première entreprise qui était Copines de Voyage. Et du coup, je poursuis la suite, mais donc j'ai lancé Copines de Voyage avec 3 associés. C'est une très belle aventure qu'on a vécue tous ensemble et qu'on a développée pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai décidé de quitter Copines de Voyage en l'occurrence et de rejoindre un autre projet qui venait de se lancer à Annecy dans le tourisme, parce que c'était vraiment les deux, enfin en tout cas le secteur du tourisme était celui que j'avais vraiment commencé à développer ou sur lequel je commençais à être assez compétente, qui est Explora Project. Et donc, j'ai rejoint Stan, son fondateur, en tant que COO de cette entreprise.
Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce métier de COO ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et peut-être dans le cadre aussi de l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui, Explora Project ?
Oui. Complètement. Le COO, en fait, c'est celui qui va vraiment mettre en place la vision du CEO opérationnellement. C'est-à-dire, en gros, qui va s'assurer, à partir de la vision et de l'ambition de l'entreprise, qu'on délivre les produits ou les services de l'entreprise dans les timings, dans les coûts et avec les bons process et les bons outils. Et je crois que même dans le cadre de Copine Novège, c'était plutôt ma force, c'était à partir d'une vision ou d'une envie de se dire bah, comment je la déploie opérationnellement sur le terrain. Donc ça veut dire créer du cadre à partir de quelque chose qui peut être assez abstrait, à partir de la stratégie d'entreprise, créer du cadre, mettre en place des ressources, les associer à des coûts, faire des prévisions pour que justement les potentiels consommateurs ou utilisateurs des services puissent les obtenir à temps. Donc c'est exactement ce que j'ai fait chez Explora Project. Je suis arrivée en essayant de structurer du coup ce qui était à l'époque une toute petite équipe pour la faire progressivement monter au rythme de sa croissance, et qu'à aucun moment on ait un problème pour délivrer le produit ou délivrer le service attendu parce qu'on a mal estimé la façon dont il fallait s'organiser pour délivrer ce produit ou service. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la mise en place opérationnelle dans le cadre de l'entreprise. Donc qu'est-ce que ça veut dire chez Explora Project ? Ça veut dire structurer l'équipe qui va délivrer ce qu'on appelle les expéditions, donc c'est les aventures de voyage. S'assurer que du coup on ait les bons process pour pouvoir les créer, pour pouvoir les concevoir, pour assurer tout le contrôle qualité aussi, assurer à la fin que les participants qui vont aller sur des expériences Explora Project vont vivre une bonne expérience et que ce sera à la hauteur des attentes et de ce qu'on leur a promis. Donc du coup d'abord la structuration des produits et puis après la structuration de tous les process en interne, quels outils on utilise, comment les clients aussi vont arriver sur le site, comment on doit concevoir le parcours de vente pour que tout se passe bien in fine et qu'ils puissent trouver le service qui correspond à ce qu'ils étaient venus acheter.
Très bien. Et donc, quand tu es arrivée chez Explora Project, tu dis que c'était une petite équipe. Vous étiez combien ?
On était même pas 5, je crois qu'on était 4 ou 5, ouais, c'était le tout début de l'aventure. Et là aujourd'hui on est 20, et donc du coup en fait c'est ce passage à l'échelle qu'il faut savoir gérer. Alors on est 20 parce que justement la croissance fait qu'on a été, on a dû justement gérer de la croissance au cours des deux dernières années, et donc il faut savoir justement prévoir du coup les ressources nécessaires à la fois en termes de moyens humains, en termes d'outils, en termes de moyens financiers pour du coup accompagner cette croissance-là. Donc ça, c'est mon rôle au quotidien, en fait, c'est de prévoir ça.
Finalement, c'est un métier qui est très vaste, enfin très pluriel, puisque tu t'intéresses à tous les tenants et aboutissants de l'activité de la start-up.
L'entreprise. C'est exactement ça. C'est ce que je trouve passionnant. C'est vraiment se dire, on a envie d'aller là. Comment concrètement, si dans 3 mois ou dans 1 an, je vais être là, comment je m'organise pour le faire ? Et ça, c'est vraiment ce métier de CEO. Et je trouve que du coup, sa variété et puis son impact aussi au quotidien, parce qu'en fait, on parle de la stratégie d'entreprise, on parle de la vision et de l'ambition, qui sont vraiment très conceptuelles, pour les mettre en musique, je rebondis sur le piano, pour les mettre en musique au quotidien. Et donc du coup, pour construire et forger la vision. Et c'est vraiment ça qui est hyper épanouissant et enrichissant dans ce métier, c'est de sentir que d'une vision, on est en train de le traduire de façon concrète, de le partager aussi avec les collaborateurs de façon concrète, et donc que ça prend forme et que l'entreprise prend forme au fur et à mesure de ses actions et des décisions.
En tout cas, tu transmets bien ton enthousiasme, et c'est vrai que ça a l'air stimulant. Et finalement, tu parlais de stratégie. COO, c'est un poste de direction, c'est un C-level, comme on dit. Ça veut dire que tu es amené à interagir avec d'autres personnes qui ont un niveau de direction dans l'entreprise. Et comment est-ce que tu interagis avec qui exactement ?
Alors, en premier lieu, avec le CEO, parce que s'il y a un COO en général, c'est qu'il y a un CEO. Donc, c'est le CEO qui, en général, porte la vision extérieure de l'entreprise et plutôt cette vision et cette ambition, mais qui va se nourrir aussi de tout ce que le COO lui apporte au quotidien sur est-ce que cette vision, elle est tenable, à quelle échéance, comment on peut la construire, quelles seraient les conditions pour réussir à délivrer ce que lui ou elle pourrait avoir en tête. Donc, ça, c'est la première itération, c'est clairement sur la stratégie. stratégie d'entreprise avec le CEO. Et puis, on peut être amené aussi à interagir avec d'autres C-level. On connaît parfois le CMO, le Chief Marketing Officer, qui lui, du coup, va mettre en place les moyens et la stratégie pour faire connaître le produit pour le vendre. Et puis, le CTO, qui est aussi un des plus connus au sein des C-level, qui est le Chief Technical Officer et qui, lui, va être le développeur en chef pour mettre en place les moyens techniques dont l'entreprise a besoin pour grandir.
Très bien. Alors, pour être COO ou directrice des opérations, pour le dire en français, est-ce que ça nécessite, selon toi, d'avoir des connaissances poussées dans les nouvelles technologies, dans le numérique ?
Alors je dirais que oui, dans une certaine mesure, parce qu'en fait, pour optimiser une entreprise, il faut quand même réussir à avoir des partis pris sur la façon dont techniquement on veut construire l'entreprise. Alors ça dépend aussi de la structure d'entreprise, c'est-à-dire que nous, on est une entreprise plutôt e-commerce, plutôt en ligne, il n'y a pas d'industriel. Si j'étais COO d'une entreprise industrielle, ce serait un petit peu différent, on m'attendrait beaucoup sur la connaissance des procédés, des techniques industrielles. Dans le cadre d'Explora Project, je n'ai pas forcément à avoir cette maîtrise, je n'ai clairement pas avoir cette maîtrise industrielle. Par contre, mon enjeu, c'est de bien connaître tous les outils ou les méthodes de développement ou techniques pour en tout cas être capable de faire des choix sur la façon dont on va opérer. Donc ça implique quand même dans une entreprise comme la mienne qui est une entreprise du e-commerce d'être quand même assez calé sur cette partie-là et puis aussi de pouvoir, c'est pas le cas chez Explora Project, on n'a pas de CTO. Si j'avais un CTO, il faudrait que je puisse interagir facilement avec lui, donc avoir un niveau minimum de connaissances pour pouvoir interagir. Là, aujourd'hui, c'est plutôt moi qui ai cette casquette de CTO au sein de l'entreprise en m'appuyant sur des développeurs seniors.
Ok, très bien. Et donc, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que avant d'avoir ce poste de COO, tu as donc créé une start-up. Et avant ça, tu avais plutôt une casquette dans le marketing. Comment on devient directrice des opérations ?
Tu mentionnais tout à l'heure que c'était un poste qui était très très diversifié, sur lequel il y avait on touchait à beaucoup de choses. Et en fait, on y vient justement parce qu'à un moment dans une petite entreprise et quand on crée son entreprise, on doit être au four et au moulin, on doit faire absolument tout, du marketing, on doit être DAF de son entreprise, on doit être bon aussi pour délivrer opérationnellement. Et finalement, quand on crée, au départ, on est obligé par nature de tout faire. Et moi, du coup, chez Copines de Voyage, j'ai pas mal développé la partie agence de voyage. Je me suis intéressée à plein de choses et j'ai eu aussi envie de creuser chez Explora Project certaines parties sur lesquelles j'avais envie de creuser ou d'approfondir mes compétences et puis aussi avec lesquelles j'avais plus d'affinité. Donc, je pense que je suis allée aussi logiquement, dans le cadre d'Explora Project, vers les secteurs ou le périmètre qui m'avait le plus épanoui chez Copines de Voyage.
Très bien. Et est-ce que tu vois finalement un parcours royal pour atteindre ce métier ou finalement c'est parce que est-ce qu'il existe des études pour aller vers ça aujourd'hui ?
Alors non, clairement pas. Ce que j'observe, c'est que les COO des entreprises industrielles sont plutôt des ingénieurs qui sont passés par l'industrie. Les COO de boîtes un peu plus comme Explora Project, donc plus dans le digital, ce sont des gens qui ont eu des parcours assez diversifiés dans les fonctions opérationnelles qui viennent parfois de la logistique ou qui ont été amenés à mettre en place des process ou alors qui sont eux-mêmes des entrepreneurs en puissance et du coup qui ont créé leur propre entreprise et ensuite qui rejoignent des startups un peu plus grosses et qui du coup mettent en place la stratégie en l'occurrence ou deviennent COO d'une startup un peu plus grosse. Donc ça se fait aussi beaucoup par itération, clairement il n'y a pas de voie royale, c'est par la somme d'expériences qui développent ces compétences de structuration, de mise en place d'outils, de mise en place de process qu'on arrive à ce poste-là.
D'accord. Et est-ce que tu vois des compétences clés qu'il faudrait avoir pour exercer ce métier ?
un bon esprit d'analyse et de synthèse, puisqu'il faut du coup être capable de faire la synthèse et l'analyse d'une stratégie en ambition pour derrière la cascader en objectifs opérationnels qui vont guider du coup la mise en place de tous ces process. Donc je pense que déjà il faut être capable de faire une bonne synthèse, une bonne analyse, comprendre le contexte et ensuite le descendre et le cascader en échéance, en coûts, en moyens, en business plan, etc. Donc je pense qu'il faut être assez analytique, assez méthodique dans l'approche aussi, assez construit, en tout cas être capable de comprendre et de résumer quelque chose de très abstrait en vision très concrète pour l'entreprise. Et si je peux juste rebondir sur un point, j'ai aussi vu dans les parcours de gens qui sont COO souvent un passage par des cabinets de conseil. Mmh. Parce que justement, je pense que c'est des bonnes écoles de formation pour être capable de retranscrire des enjeux de l'entreprise en faisant une synthèse et en disant bah, voilà quel est le plan d'action que je vous recommande pour votre entreprise. Et donc, je pense qu'en fait, ce processus-là, il est assez similaire à ce que doit faire un COO, c'est-à-dire comprendre des enjeux ou des besoins au sein d'une entreprise et être capable de formuler une réponse et un plan d'action qui soit actionnable par l'entreprise derrière.
Ok. Mmh. C'est intéressant, du coup. Et concrètement, pour mieux se projeter, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est ton emploi du temps ? Sur une journée type ou alors une semaine type, qu'est-ce qui est le plus représentatif à tes yeux ?
Oui, alors je commence toujours la semaine par une phase d'analyse de la performance en fait de la semaine passée ou du mois passé, parce que justement c'est le moment où on va créer cette synthèse dans notre tête de ok, où en est l'entreprise en ce moment, quels sont ses enjeux, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé la semaine passée, et ensuite dans la semaine qui suit d'être capable de remettre en place des plans d'action, corriger ce qui s'est mal passé ou faire en tout cas un focus sur ce qu'on a vu de la semaine passée. Donc ma première partie de semaine est le lundi matin est en général dédiée à cette partie-là. Ensuite des réunions opérationnelles avec chaque équipe pour suivre l'avancée des projets, suivre leurs KPI, leurs indicateurs de performance, et puis suivre derrière les plans d'action qui ont été déterminés sur chaque département. En plus de ça, après, beaucoup de temps d'échange avec le CEO, justement, pour échanger sur à la fois le retour de ce qui s'est passé dans chaque équipe, là où on en est sur notre feuille de route, ce qui va être atteint, ce qui ne va pas être atteint, là où il faut remettre plus de moyens, là où il faut réinvestir, ou là, au contraire, où on est plutôt bien par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc, c'est un métier, en fait, qui est quand même beaucoup, beaucoup basé sur le management d'équipe, hein, clairement, c'est comme c'est un poste C-level, et l'échange avec les différentes équipes opérationnelles.
Le management d'équipe, aujourd'hui, t'as une équipe de combien de personnes ?
J'ai à peu près la moitié de l'équipe Explora Project sous ma responsabilité, donc ça fait une douzaine de personnes.
Donc, ce sont toutes les personnes qui sont dans le développement du produit ?
Oui, exactement. Ouais, dans le développement du produit et puis dans le suivi derrière du produit. Alors, moi, je gère en plus la partie développement web, donc toute la partie digitale de l'entreprise.
Ok. Alors, ce que j'entends, c'est que finalement, ça requiert de lever la tête du guidon assez régulièrement, puisque chaque semaine, tu regardes de manière un peu critique justement ce qui s'est passé et tu regardes les indicateurs pour les confronter à la vision. Ça demande à faire l'aller-retour entre vraiment l'opérationnel et le côté vision assez régulièrement.
Oui, et du coup d'être à l'aise avec la data. C'est-à-dire en gros, c'est vraiment ça notre rôle, c'est d'être capable de regarder des sources de données et puis d'en tirer des plans d'action, de savoir l'extraire, l'analyser, donc en gros la resegmenter sous forme de tableau de bord qui vont derrière nous permettre de tirer des conclusions et de ces conclusions des plans d'action. Donc je pense que c'est un élément, je parlais d'esprit analytique, c'est aussi d'être à l'aise dans les raisonnements mathématiques et dans le fait d'aimer en fait aller vers la donnée pour essayer de lui faire dire ce qui se passe sur nos métiers. Et notamment parce que encore une fois, on est dans une entreprise e-commerce, les enjeux seraient peut-être un petit peu différents sur des entreprises industrielles.
Donc Excel est ton meilleur ami ?
Oui, ouais. Les tableaux croisés dynamiques aussi, ouais.
Ok. Alors pour maintenant, pour en venir sur le fait d'exercer ce métier en start-up, puisque aujourd'hui tu exerces donc ton métier au sein d'une start-up, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de t'orienter vers cette typologie d'entreprise Alors, on sent qu'il y a à la fois le fait d'aujourd'hui exercer ton métier, enfin être salarié de start-up, mais il y avait aussi ton identité de fondatrice de start-up. On sent une appétence pour ce type d'entreprise. Est-ce que tu peux revenir dessus et nous expliquer pourquoi ce choix?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est fonder une start-up parce que justement, c'est construire quelque chose qui a un sens, on va dire, à la fois pour Copine Voyage ou pour Explora Project. J'ai l'impression d'apporter une brique pour un tourisme plus durable ou un peu différent ou qui apporte une solution. Donc, en fait, apporter une solution par rapport à un besoin ou un problème donné, c'est ce que font les startups. Hein, normalement, c'est en gros, elles apportent une solution à un besoin qu'elles ont identifié. Et ça, j'ai toujours trouvé ça assez passionnant. Et puis, je ne me verrais pas de toute façon travailler dans un autre cadre que celui des startups. Parce que c'est des entreprises dans lesquelles, justement, on est habitué à réinventer en permanence les choses. On est habitué à ne pas penser selon une ligne toute tracée. Et c'est ça qui est assez fascinant ou passionnant, c'est que tout est possible en start-up. Et je dis ça à la fois en tant que fondatrice, mais je vous dirais la même chose si j'étais salariée et que j'étais jeune diplômée, que je venais de rentrer dans une start-up. Parce que d'abord, il y a tout à construire. Donc du coup, il n'y a pas de cadre très délimité sur le poste. Il y en a certains qui le voient comme un inconvénient parce que ça peut être un peu inconfortable de jamais connaître l'exactitude de son périmètre ou en tout cas de ne pas sentir de frontières franches. Par contre, ça veut dire aussi qu'on peut créer le poste dont on a envie. On peut développer les compétences dont on a envie. Et souvent, dans une petite entreprise, en fait, si la personne a envie de développer telle ou telle partie de son poste, en général, elle sera assez libre pour le faire. Et puis, elle va aussi progresser au rythme de progression de la start-up. Et c'est un peu le pari qu'on fait quand on rentre dans une entreprise comme ça. C'est qu'elle va grossir et avec le fait qu'elle grossisse, elle nous entraîne aussi dans des métiers qui sont de plus en plus passionnants et va nous faire évoluer au sein de sa structure. Et c'est clairement ce qui se passe dans la plupart des entreprises là, qui connaissent des très grands succès, on parle des licornes, les premiers salariés de ces entreprises-là sont en général montés très vite avec des niveaux de responsabilité qu'en général, on n'a pas forcément jeune dans des entreprises plus installées.
Oui, on dit que le parcours en start-up est un accélérateur de carrière.
Oui, totalement. Totalement, parce qu'en fait, on accède à des choses qu'on ne ferait pas au même âge dans des entreprises qui nous diraient... Et moi, j'ai adoré Pernod Ricard, mais c'est une entreprise où, du coup, on progresse au rythme où l'entreprise a décidé qu'on progresserait dans une certaine mesure. Alors qu'en start-up, il n'y a pas d'histoire préécrite. Il n'y a en général pas un cadre très existant, ce qui est un peu inconfortable pour certaines personnes, mais qui est aussi source d'opportunités.
Est-ce qu'il t'a fallu un temps d'acculturation entre le moment où tu as quitté Pernod Ricard et le moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ?
Alors oui, clairement, c'est un peu... Alors j'y étais préparée grâce à HEC Entrepreneur. Clairement, je pense que si je n'avais pas fait ces études, ça aurait été difficile. Mais c'est vrai qu'on quitte une entreprise. En plus, c'est une super entreprise, Pernod Ricard. Et c'est une entreprise du CAC 40. Et puis qu'on se réinstalle chez papa-maman pour créer son entreprise et qu'on se retrouve avec ses associés sur un petit bureau d'écolier. C'est sûr que ça fait très bizarre. Mais c'est aussi les moments les plus passionnants. Parce qu'en fait, il n'y a pas de charge. C'est-à-dire qu'en gros, si on échoue, tant pis. En tout cas, on aura essayé. Mais à ce stade, l'entreprise, il y a effectivement tout à créer. Ça peut occasionner un peu de questionnement parce qu'on se dit pourquoi j'ai fait ça. Dans les moments de doute, on subit quand même des vagues émotionnelles. On peut être à la fois très très haut quand on a des bonnes nouvelles et très très bas quand on a des moins bonnes. Donc du coup, émotionnel. C'est très puissant. Il faut aimer, c'est une amie émotionnelle aussi. Ouais, voilà, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Mais au final, moi, je trouve que ça m'a plus nourrie que ça ne m'a que ça a été inconfortable, que ça a été inconfortable. Et c'est là que j'ai su d'ailleurs que c'était le bon choix. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais à l'aise dans ce type de contexte et à aucun moment, même dans les moments les plus difficiles, j'ai regretté. Les choix que j'ai faits. Et c'est là que je me suis dit que j'étais à ma bonne place.
Bah, super. Dans le cadre de tes fonctions chez Explora Project, tu as une vision assez périphérique des besoins de l'entreprise, y compris en termes de ressources humaines. Et c'est l'un des enjeux qu'on voudrait aborder dans le cadre de ces podcasts. Quels sont, selon toi, les profils dont a besoin une start-up pour se développer et en fonction de son stade de maturité ? Est-ce que tu as une vision là-dessus ?
Ouais, bah dans les premiers temps, on cherche surtout des profils de gens qui soient hybrides, c'est-à-dire capables de toucher à plein de choses, parce qu'en fait, il y a un jour où on va leur demander de faire tel métier, puis le lendemain, en fait, les besoins auront changé, et du coup, ce sera un autre métier. Et du coup, on recherche vraiment des couteaux suisses, ouais, je vais appeler ça des couteaux suisses, des gens qui sont peut-être assez juniors, mais qui ont une capacité de opérationnellement, alors c'est des métiers assez exécutants, mais en tout cas, dans lesquels ils sont capables très rapidement d'aller faire une action ou prendre telle mission, de la comprendre vite et de la retranscrire vite. Donc des gens qui apprennent vite et qui sont capables de faire une multitude de métiers. Ça, c'est les premiers types de profils qu'on recherche. Et puis après, au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, on va rechercher de plus en plus des spécialistes et des experts de certaines disciplines parce que typiquement, par exemple, chez Explora Project, on faisait du mailing ou du marketing automation et puis on a voulu devenir bien meilleur en marketing automation. Donc on est allé chercher ce qu'on appelle un CRM manager, donc quelqu'un qui est spécialiste du marketing automation. Et là, pour le coup, on va sur des profils qui ont un peu plus d'expérience, qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience et qui ont vraiment creusé un aspect très spécifique d'un métier en marketing ou en digital. Et après, chez Explora Project, il y a deux grands types de profils qu'on recrute. D'une part, des profils qui viennent plutôt des agences de voyage ou du tourisme qui savent créer des produits touristiques. Et d'autre part, les métiers du digital. Alors, que ce soit en marketing digital ou que ce soit en digital, en développement web ou en produit en l'occurrence. Donc des postes de product manager, de développeur full stack ou de marketing ou d'acquisition manager. Donc ça, c'est les deux grands pôles en tout cas de recrutement aujourd'hui chez Explora Project.
Ok, donc au départ plutôt des couteaux suisses moutons à cinq pattes.
Oui.
Et après, on se spécialise, on va chercher des personnes qui sont pointues sur certains domaines.
Exactement. Et avec la croissance des équipes, on va rechercher aussi chez ces gens qui sont experts de plus en plus des compétences managériales. Donc en gros, qui en plus d'une expertise sur un terrain, vont amener une capacité à manager des équipes. Parce qu'il y a un moment où les fondateurs et les C-level n'ont plus les possibilités de manager tout le monde en râteau. Mmh. On est obligé de mettre des managers intermédiaires pour nous permettre de gérer les équipes qui grandissent.
Oui, c'est lié à la croissance de ouais. l'entreprise.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, vous recrutez ?
Oui, on recrute. On recrute plutôt là un assistant administratif et comptable, donc un métier plus traditionnel pour nous permettre d'évoluer. Et puis un chief product officer, donc en gros un CPO, c'est quelqu'un qui va justement avoir une vision sur comment le produit digital, cette fois-ci, pas le produit touristique, le produit digital doit évoluer et quelles fonctionnalités on doit développer pour nous permettre d'être toujours meilleurs en conversion, donc en e-commerce, et toujours meilleurs sur nos outils interne.
C'est intéressant le retour que tu nous fais justement sur votre besoin qui porte aussi sur des métiers plus traditionnels, puisque finalement les startups sont des entreprises comme les autres.
Tout à fait.
Elles ont aussi besoin de ce qu'on appelle les fonctions support.
Exactement. Oui, on a besoin de compétences RH, on a besoin de compétences administratives et comptables, on a besoin de directeurs financiers aussi, directeurs et directrices financiers. Et puis même sur la partie agence de voyage, on a besoin de gens, par exemple, qui savent créer un produit touristique. On peut innover sur les outils, mais il y a un moment où il y a des bonnes pratiques qui viennent des années d'expérience et qu'on
dans
peut trouver dans un métier plus traditionnel.
Mmh. Mmh. Donc finalement, les startups, ce sont des entreprises dans lesquelles tout le monde peut travailler. Enfin, il n'y a pas forcément de secteur spécifique. Tous les profils sont les bienvenus.
Oui, exactement. Il faut juste avoir une appétence qui permet la compréhension des enjeux de l'entreprise. Parce qu'au quotidien, ce qui va guider, par exemple, une entreprise comme Explora Project, l'analyse et le commentaire de données très, très digitales. Et du coup, ce qu'on recherche chez les gens, c'est pas forcément une expérience déjà en start-up ou des métiers qui sont forcément digitaux. Par contre, on recherche chez tout le monde la capacité à un moment à comprendre comment on fonctionne, à comprendre des concepts digitaux et du coup à les intégrer pour bien délivrer dans leur travail. Donc tout le monde peut travailler en start-up, modulo le fait de vouloir se former et comprendre la start-up et les métiers du digital.
Et pour la question de la fin, est-ce que tu aurais un mot pour encourager nos auditrices et nos auditeurs à travailler en start-up ?
Oui, je dirais opportunité parce que je pense qu'en fait, c'est des métiers comme, par exemple, quand on commence comme couteau suisse dans une start-up où on va voir plein de métiers, on va voir plein de métiers et du coup, on va aussi, je pense, pouvoir formuler un projet professionnel pour ceux qui sont les plus jeunes en start-up. Pour ceux qui sont un peu plus seniors, c'est un moment à Paris de se dire je vais dans une petite entreprise, mais derrière, elle va évoluer très rapidement et du coup, le métier que je fais aujourd'hui va évoluer dans 6 mois, ce sera plus la même chose. Dans 1 an, ce sera plus la même chose. Donc même pour des gens plus seniors, il y a une évolution dans leur poste aussi. Et puis, le fait qu'une entreprise, une start-up, parfois, elle fait des pivots, parfois, elle va sur des nouveaux marchés, parfois, elle va à l'international. Et donc, en gros, on se crée un champ d'opportunités, quel que soit ce qu'on recherche. On peut aussi être à la recherche d'incentives financiers. Et pour le coup, quand on est dans des startups qui ont des politiques de distribution de BSPCE, par exemple, de distribution du capital aux salariés, c'est aussi une opportunité financière. Donc je pense qu'en fait, c'est le meilleur mot qui résume un parcours en startup. Il faut juste être prêt à tous les inconvénients, ou en tout cas toute l'autre partie que j'ai citée sur les métiers en start-up, qui est la capacité à être à l'aise dans parfois un contexte qui n'est pas défini, l'incertitude aussi parfois sur l'avenir des start-up. Donc quand on est à l'aise avec cette partie-là, je pense que c'est une grande source d'opportunité.
Très bien, merci beaucoup Alix.
Merci à vous.
C'était le podcast Startup Job Story. Merci à toutes et tous pour votre écoute. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Rendez-vous aussi sur www.startupjobstory.com. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire.